Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi » ?
Oh, 50 000 fois. Chez Sephora, quand ils m'ont dit « tu vas aller bosser, ouvrir les Champs-Élysées chez Sephora », je me suis dit « bah ouais, pourquoi pas moi, tiens ». Je sais pas ce que c'est, mais c'est « pourquoi pas moi ». Pourquoi pas moi bah, quand je me suis mariée, quand j'ai rencontré mon amoureux qui est devenu mon mari, je me suis dit ouais, « pourquoi pas moi ?» Même si j'arrivais un peu avec un petit fardeau de pas pouvoir d'enfant biologique, bah ouais, pourquoi pas moi quand même. Pourquoi pas moi qui lancerait ce podcast sur l'orientation, enfin sur plein de sujets, le pourquoi pas moi, il est là. C'est une forme d'audace spontanée. C'est pas pour se me mettre en avant, c'est pas pour prendre de la place.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier, et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de Perrine. Perrine a un parcours professionnel impressionnant. Elle commence sa carrière chez Sephora, où elle va gravir les échelons à une vitesse exponentielle. Elle part ensuite travailler en agence jusqu'à ce qu'elle soit chassée par Chanel puis Hermès pour devenir directrice du digital. Perrine crée une première entreprise qu'elle va fermer avant de trouver sa place et lancer Azimut, le podcast qui éclaire lycéens, étudiants et parents sur les études supérieures. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Perrine Kervézier.
Bonjour Perrine.
Bonjour Charlotte.
Je suis très heureuse de te recevoir dans le podcast parce que tu es la première personne qui m'a interviewée et à qui je rends le micro. Donc je suis très heureuse que ça soit toi aujourd'hui.
C'est un bon souvenir pour moi cet enregistrement qu'on avait fait ensemble effectivement.
Ça date un peu, c'était il y a un an et demi je crois.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît ?
Alors c'est une boussole. Donc c'est une boussole qui indique évidemment le nord. Et ce qui est intéressant avec cette boussole, c'est elle est classique. Hein, c'est une boussole que j'ai reçue en cadeau d'entreprise il y a probablement 25 ans et qui a toujours été sur mon bureau, que j'ai été employée donc dans l'entreprise où je travaillais et puis maintenant à mon compte, à mon propre bureau. Mais elle est toujours à portée de main. Ce que j'adore, c'est que les aiguilles, en fait, elles bougent un tout petit peu, elles oscillent, et puis après, pouf, elles se remettent dans le bon sens, elles vont choper le nord. Et pour moi, c'est très important, cet objet-là. Il résonne beaucoup en moi sur à la fois mon histoire, ma façon de réfléchir, ma façon d'entreprendre. Et vraiment, je pense que c'est un objet, c'était évident quand tu m'as demandé, c'est un objet qui me représente très, très, très sincèrement.
Avant de nous parler bah, aujourd'hui de ta vie d'entrepreneuse, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ?
Alors, j'ai grandi, je vais citer deux villes, mais il y en a eu plein d'autres. J'ai grandi, je suis née à Reims, je suis rémoise. C'est une ville que j'aime beaucoup, j'ai des attaches familiales encore. C'est une ville qui m'est très sentimentale. Voilà, j'ai grandi à Reims, et puis ensuite on a déménagé quand j'étais petite à Paris, puis je suis revenue à Reims, puis en province à Dijon. Et surtout, j'ai passé mon adolescence à Londres. Mon père a été expatrié, il a emmené toute la famille. Et j'ai passé la fin de mon primaire et tout mon collège à Londres, au lycée français de Londres. Et j'ai adoré cette ville. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il faisait ton papa pour pouvoir bouger autant ?
Alors, il était banquier. Voilà. Il était banquier dans la banque.
Et comment tu l'as vécu, toi, le fait de bouger de ville comme ça ?
Alors petite en primaire, je m'en souviens pas. Donc je pense que j'étais un peu triste de perdre mes amis, mais je m'en refaisais d'autres, etc. Partir à Londres, ça a été la grande aventure. Je me souviens encore de partir. J'avais 8 ans ou 7, ouais par là, Et je savais dire un mot qui était bed, le lit. Bon, très utile pour s'en sortir dans la vie. Et donc, énorme choc. Et après, une grande chance. Je me souviens que je regardais mes copines de Reims en me disant, oh là là, les provinciales, elles sont jamais allées à la capitale. Moi, je prends le métro tous les jours. Voilà. Donc, j'avais l'impression de vivre la grande aventure dans une ville... dans une très très grande ville, parce que Londres c'est très très grand par exemple par rapport à Paris, et j'avais une grande liberté, et en fait j'étais hyper bien dans cette ville.
Ouais, c'est une ville qui est hyper sûre. Moi je sais que j'y ai vécu quand j'étais en deuxième année d'école de commerce, et le fait d'avoir des caméras partout dans la rue faisait que je rentrais à 4-5 heures du mat de boîte toute seule sans avoir peur, le truc que j'aurais jamais fait à Paris quoi.
Moi, j'avais pas cette perception de sécurité, oui. Mais j'avais cette perception en tout cas de liberté jeune. Après, je suis retournée effectivement faire mes études pendant 2 ans à Londres après le bac. Mais effectivement, cette liberté de se dire en fait tout est possible à Londres.
Il n'y a pas de jugement. Voilà, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est voilà. Ouais.
À l'époque, moi, quand j'y étais, c'était les années où il y avait les punks et les skinheads. J'ai vécu plein d'aventures en voyant des punks et des skinheads. C'était fabuleux. Voilà, c'était comme un film, quoi.
Et justement, tes études, ça c'est comment ça s'est passé pour toi au moment de choisir ?
Ça a été un peu un non-sujet parce que j'étais pas très bonne en classe. Je suis revenue en France pour le lycée dans un lycée de filles, hyper bon niveau et moi méga nulle. Donc en fait, ils ont cru que pour la première fois de leur histoire, ils allaient avoir une fille qui n'aurait pas son bac. Donc en fait, l'orientation post-bac, c'était pas trop un sujet parce que déjà il fallait peut-être que j'aie mon bac. Puis en fait, j'ai eu mon bac avec mention, ça s'est très bien passé. Et donc je n'ai postulé que pour une école de commerce qui était à Reims et à Londres. Oh, surprise. C'était là, j'ai regardé comme ça. Ah bah tiens, je repartirais bien à Reims et je repartirais bien à Londres. Et ben j'ai eu mon bac, j'ai eu l'école et c'est l'école que j'ai fait, c'est une école de commerce qui s'appelle le CESEM. Voilà, et j'ai adoré cette école mais je l'ai pas vraiment choisie, elle s'est choisie à moi. Voilà.
Et donc quand tu as fait ces études-là, dans ta tête, tu disais plus tard, est-ce que tu savais ce que tu avais envie de faire ?
Alors plus tard, je voulais organiser, c'était mon grand sujet. J'avais fait plein d'autres choses avant qui me montrent. J'étais l'aînée d'une fratrie. J'ai fait du scoutisme. J'aimais bien organiser un peu la vie des autres, organiser ma chambre, changer tout le temps ma chambre, déménager ma chambre. Donc, je voulais organiser. J'ai fini mes études en faisant en Angleterre un peu ce qu'on appelait la logistique. Et quand je suis revenue en France à la fin de mes études pour chercher un travail, la logistique en France, c'était pas du tout la même. C'était les camions, le déménagement, et ça m'amusait pas du tout. Et en fait, j'avais pas tellement de perspective, si ce n'est que je voulais organiser. J'étais tout à fait ouverte dans ma tête à plein de jobs, tant que je me sentais à l'aise. Et je reviens à ma petite boussole. En fait, je me faisais un peu déjà confiance sur j'irai où la vie me mènera et où je me sentirai à l'aise. Voilà.
Et on n'en a pas parlé quand tu étais petite fille. C'était quoi tes rêves d'enfant ?
Je crois que j'avais pas de rêve. Honnêtement, je pense que je me projetais pas du tout dans l'avenir. J'ai jamais eu de vocation. Je me voyais basique, maman, mère de famille, travaillant, oui, évidemment, mais pas. J'avais pas de projet particulier.
Et donc, quand tu as commencé à travailler, qu'est-ce que tu as cherché comme type de poste ?
Je cherchais, je te dis, la logistique. Et puis finalement, petit à petit, j'ai cherché des jobs avec une forme d'organisation. Alors, je me suis envoyé plein de CV. Je me souviens pas tellement où j'envoyais, mais je me souviens que j'ai envoyé plus de 100 CV à l'époque. On écrivait à la main, on écrivait lettres de motivation une par une à la main. Et c'était l'horreur parce que je répondais à tout et n'importe quoi. Dès qu'il y avait un petit truc dans l'annonce qui me paraissait bien, je faisais des annonces spontanées aussi. Je pense que par exemple L'Oréal, comme c'était une grosse boîte à l'époque et que ça c'était très attirant, j'ai dû leur envoyer, je sais pas, 10 CV pour des jobs différents. Ce serait intéressant un jour qu'ils me renvoient tout ça, s'ils l'ont gardé, parce que je pense que c'était complètement incohérent. Mais j'avais des espèces de coups de cœur pour des jobs et puis je me disais, oh, tiens, dans cette division-là ou dans cette marque-là, ça m'intéresserait, donc je postule. Et finalement, c'est un chasseur de tête de jeunes. Enfin, voilà, c'était Manpower qui avait un job et qui m'a dit, je vous verrais vachement bien là-dedans. Et c'était le job, c'était d'ouvrir le magasin des Champs-Élysées pour Sephora. Sephora avait le projet d'ouvrir un flagship, un énorme magasin sur les Champs. Et quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai continué à sourire et être très polie. Je ne savais pas ce que c'était que Sephora. En fait, je revenais de Londres, toute fraîchement. Enfin, ça faisait 15 jours, 3 semaines que j'étais revenue en France. Je n'avais aucune idée ce que c'était que Sephora. Donc, elle m'a dit, vous connaissez? Je dis, oui, bien sûr. Et elle m'a dit, et du coup, vous allez dans lequel? Je me suis dit, bah, il doit y en avoir plusieurs. Et j'ai dit, bah, à la Défense, parce que je savais qu'il y a un énorme centre commercial à la Défense où je n'avais jamais été. Et elle m'a dit, ah oui, bah, c'est le plus gros magasin. Bah oui, bah, voilà. Et donc, je suis sortie, de ce, et puis j'avais jamais fait de boutique. Enfin, j'avais jamais été en boutique, dans mes stages et tout ça. Et quand je suis sortie, j'ai été à la Défense chercher Sephora. J'ai vu que c'était une parfumerie. Je me suis dit, oulala, mais j'y connais rien. Je connaissais mon parfum et le parfum de mon père. Très utile dans la vie. Et puis, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Bon, elles sont un peu déguisées en Mary Poppins. Elles avaient un uniforme un peu bizarre. Mais je me suis dit pourquoi pas, puis je verrai bien. Et je suis revenue, j'avais un autre entretien. Je suis revenue, je lui ai demandé, mais surtout pourquoi est-ce que vous m'avez choisi pour ce job fabuleux que vous me proposez? Et elle m'a dit deux raisons. Vous avez été cheftaine de Louveteau, vous avez fait du scoutisme, et ça, franchement, ça apporte plein de choses d'un point de vue management, etc. Et puis vous avez travaillé chez Quick pour vous payer votre permis de conduire. Et ça aussi, c'est fabuleux. J'ai dit, mais sinon, j'ai fait des études, j'ai été à Londres, je parcours à Montgomery. Ouais, ouais, non, ça, c'est bien. Mais surtout, Quick et les cheftaines de Louveteau, ça, c'est vraiment, ça m'a impressionné. OK, ben voilà.
Comme quoi, il suffit de choses qu'on n'imagine pas, quoi.
Voilà. Et puis, c'est des petites choses à côté, surtout. C'est là où on se sent bien. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que, bah, Quick, je me souviens d'avoir fait ce job chez Quick en plus de mon stage d'école de commerce. C'est-à-dire que le stage, j'étais pas payée, mais il fallait que je passe mon permis. Donc, mes parents m'avaient dit, c'est toi qui te le paye. Donc, bah, je travaillais chez Quick le soir. Clairement, ça me coûtait, quoi. Je me souviens que c'était... j'avais un peu la haine quand je voyais des copains débarquer que je connaissais. C'était le soir, c'était fatigant, c'était quand même pas très intellectuellement intéressant. J'étais aux frites, hein, donc je faisais 3 heures de frites par soir. Bon, voilà, je maîtrisais à fond les frites. Donc ça, je m'étais dit, ben en fait, c'est bien, ça me paye, c'est autre chose que mon permis. Et puis le scoutisme, c'est vrai que j'en avais fait 12 ans, donc c'était ancré en moi. Et toi, je reviens à la boussole, c'était assez cohérent, quoi.
Clairement. Donc là, du coup, tu participes à l'ouverture de la boutique des Champs-Élysées.
Ouais, je suis en charge du parfum, une section de parfum pour hommes en particulier. J'ai surtout une très grosse équipe, une vingtaine de personnes, d'experts en parfum. Donc je te rappelle que je connaissais deux noms de parfums. Je n'avais jamais travaillé en boutique, je n'avais jamais vendu quoi que ce soit. Et je me retrouve à la tête d'une équipe d'experts en parfum, de vendeurs en parfum qui sont... voilà.
T'as eu peur ?
Non, pas du tout. Non, j'ai trouvé ça fabuleux. En fait, j'avançais vraiment. Alors, j'ai pas souvent eu peur hein, dans mon boulot, dans ma vie professionnelle. En fait, j'avançais en me disant, j'apprends et puis on va faire de notre mieux. Et de notre mieux, ça a vraiment été important pour moi et de mon mieux et de notre mieux. Et puis on va apprendre au fur et à mesure. Alors moi, je vais apprendre les parfums, je vais apprendre à manager. Je me souviens d'avoir hurlé un jour en magasin sur une fille qui voulait pas faire ce que je voulais, comme j'aurais hurlé sur mes sœurs quand elles m'énervaient, quoi. Puis en fait, on m'a dit non, mais en fait, tu peux pas hurler sur ton équipe. Ah bon, on peut pas hurler. Mais voilà, je vais faire autrement. Et voilà. Et en fait, j'ai appris comme ça. Alors, c'était gentil, hein. Mais j'ai appris petit à petit. J'ai appris des astuces. J'ai appris à embarquer des équipes. Et c'est la partie de mon job que je préférais, hein, au final, le management.
Ouais. Donc là, tu restes 2 ans dans ce poste.
Je reste 2 ans sur les Champs-Élysées. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec le fondateur de Sephora sur plein de nouveaux. Comme c'était un magasin hyper grand, on avait plein de rayons et il fallait toujours trouver un peu de nouveautés. Puis en fait, on a créé ensemble plein de rayons. On a créé un rayon parfum pour enfants, ça existait pas. Des parfums mixtes. On a fait des animations. Je me souviens d'avoir, il y avait CK One à l'époque qui était le parfum, et on avait fait une animation CK One et j'avais appelé l'acheteur en disant, bah, en fait, il me faudrait 10 000 flacons CK One pour l'animation des Champs. Il m'a dit, mais 10 000, tu sais, c'est ce qu'ils produisent, limite pour l'année, dans le monde. J'avais dit, bah, il me les faut, dans 15 jours sur les Champs parce que je vais faire des montagnes de CK One. Et en fait, on avait vidé voilà tout le reste de l'approvisionnement en CK One. Donc, c'était des choses qu'on faisait assez fabuleuses et il m'avait repéré, ce fondateur. Donc ensuite, j'ai été au magasin pilote à Boigny-sur-Bionne. C'est près d'Orléans, très joli petit village.
Donc, t'as emménagé là-bas ?
Ben ouais, en fait j'étais à Orléans, c'est-à-dire que j'ai annoncé à mon boss que je comment c'est passé? J'ai annoncé à mon boss oui, il me demandait comment ça allait, je dis bah c'est fabuleux puis j'ai rencontré un amoureux et tout ça parce qu'on parlait de choses comme ça aussi avec mon boss. Il me dit "Ah, c'est génial, ben j'ai une super nouvelle, tu vas aller habiter à Orléans." Ah bah c'est super, parfait.
Je pense que mon amoureux sera ravi.
Voilà. Donc j'ai déménagé à Orléans.
Avec ton amoureux?
Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Il est resté à Paris. Mon amoureux qui est maintenant mon mari, donc c'est voilà. Mais non,
c'est pour ça qu'on en parle du coup.
Ouais. Non mais j'ai déménagé à Orléans limite un week-end. Enfin franchement, ça a été hyper rapide. Je me vois encore partir le dimanche soir, la voiture pleine, ma 106 Kid pleine de meubles, d'affaires, etc. Pour commencer à bosser le lundi matin. Enfin voilà, c'était un peu rapide. Là, j'avais un magasin de 600 mètres carrés à disposition qui était le magasin qui donnait les indications à toutes les autres boutiques en termes de merchandising. Alors, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais je déterminais le plan des linéaires, la couleur de la moquette, la couleur du rouge à lèvres et du vernis à ongles des vendeuses.
Ah, génial.
Les mises en avant, les têtes de gondole, la disposition des magasins, les alarmes, le système de caisse. Et ça, c'était fabuleux. J'ai fait ça un an. Ensuite, quand j'ai annoncé que je me mariais au DG, il m'a dit « C'est génial, tu vas à San Francisco pendant 3 mois. » Génial. Donc, je suis partie à San Francisco 3 mois pour ouvrir, aider une filiale de LVMH qui avait racheté Sephora entre-temps à ouvrir aux États-Unis et au Japon en tant que responsable du concept Sephora. Après, je suis rentrée en France parce que je me mariais, donc il fallait quand même que je sois dans le même pays que mon mari, c'était plus sympa. Et j'ai fait plein d'autres choses chez Sephora, des plans à 3 ans financiers, des plans d'ouverture en Europe, et puis du référencement parfum.
Et du coup, tu t'es mariée hyper rapidement par rapport à la rencontre avec ton chéri?
Ah ouais, je me suis mariée. On s'est mariés en un peu plus d'un an.
Waouh.
Ouais. Ouais.
Et ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés?
Ça fait 23 ans.
C'est beau.
Ouais, c'est beau. ouais, c'est beau. C'est une belle aventure avec mon mari. Oui. Donc voilà. Et puis, en fait, Sephora, en 99, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'étais un dinosaure chez eux. J'étais responsable du beau. Puis après, j'étais en charge du concept. Donc, j'avais l'impression d'être un dinosaure à qui on venait demander des conseils. En fait, ça me saoulait. Et je voyais quelque chose de tout à fait nouveau qui arrivait à l'horizon, qui était Internet. Et je me suis dit, en fait, si je rentre pas dans ce truc-là, maintenant, je vais jamais y arriver. Ça va partir sans moi, ce train Internet. Je le voyais vraiment comme un TGV qui fonçait. Je me suis dit, si je rentre pas maintenant où ça commence, j'y arriverai pas. Et donc, j'ai démissionné de chez Sephora. Je me vois encore aller voir la DRH qui m'a dit, mais je comprends pas. C'est une boîte, c'est ta boîte. Je dis, ouais, mais en fait, il y a beaucoup plus exaltant manifestement à côté, donc je m'en vais. Et voilà. Et puis je suis arrivée dans une start-up où tout effectivement était nouveau, bouillonné. Si je reviens à la boussole, toi les aiguilles elles oscillaient. Puis en fait, il fallait que je trouve le nord toute seule. Donc voilà, c'était comme ça.
Et t'es restée du coup dans l'univers du cosmétique parce que vous avez un client qui était Lancôme, donc c'est
exactement
ça. Tu gardais quand même un socle par rapport à la vie d'avant, quoi.
Exactement. En fait, j'étais connaisseuse sur la partie cosmétique et complètement débutante sur la partie internet et digitale. Et il fallait que je fasse le lien entre les clients qui me parlaient de leur mascara, qui faisaient des cils plus longs que longs, des crèmes qui faisaient moins de rides. Et de l'autre côté, j'avais des développeurs, des directeurs artistiques en agence. Il fallait ensemble qu'on crée des dispositifs qui fassent vendre, qui fassent apprécier, qui fassent comprendre tous ces produits-là.
Donc là, tu restes 2 ans, tu retournes chez l'annonceur.
Exactement. Je retourne de l'autre côté de la barrière. 2 ans exaltants, 2 ans épuisants. On travaillait, c'était la bulle Internet. On travaillait 6-7 jours sur 7. Mon mari aussi était dans une start-up à l'époque. Je me souviens, on s'appelait à 10-11 heures du soir en disant « Tu penses rentrer vers quelle heure ?» Et l'heure acceptable, c'était 2-3 heures du matin. C'était un peu ça. Ah, tu rentres à 3 heures. Bon, bah, je bossais encore un peu. Ok, donc voilà.
Vous n'aviez pas d'enfants.
On n'avait pas encore d'enfants. À l'époque, le samedi, on se demandait où est-ce qu'on allait aller bosser. Est-ce qu'on bossait dans son bureau ou dans mon bureau? Parce que de toute façon, c'était normal qu'on bosse le samedi. Et l'annonceur est venu me chercher. J'ai été chassée par Chanel, parce que c'était quand même canon. Et puis voilà, donc j'y étais en 2002 pour m'occuper, pour les parfums beauté, encore toujours un peu dans le même secteur d'activité, de leur expansion Internet. Alors, à l'époque, Internet, on parlait tout juste du e-commerce. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone, hein. C'était une autre époque. Voilà.
Et là, mine de rien, donc t'as fait Sephora 4 ans, l'agence 2 ans, la Chanel 4 ans. Est-ce que il y a des personnes qui te disaient « Ah, mais tu bouges beaucoup ?»
Alors, mes parents, quand je parlais… en fait, avec mon mari, on bougeait pas mal. On avait un rythme assez similaire et tellement similaire qu'en fait, on bougeait généralement même la même année tous les deux. Et on avait convenu qu'en fait, on en parlait à nos parents que quand on avait signé… chacun de notre côté, parce que ça les inquiétait beaucoup, en fait. Donc, mes parents étaient super inquiets, parce qu'effectivement, mon père avait pas changé de banque de toute sa carrière. À l'époque, ça se faisait... Et surtout, on prenait des espèces de... On faisait des sauts un peu bizarres. C'est-à-dire que moi, je suis sortie d'une école de commerce, je pensais logistique, j'arrive chez Sephora, où je suis chef de rayon, en gros. Ils comprenaient pas que tout d'un coup, on m'envoie à San Francisco, puis je revienne en France, et puis je suis dans une agence web où ils comprennent pas ce que je fais, et puis voilà. Donc ça, c'était un peu des sauts bizarres. Chez nos copains, on avait des copains qui bougeaient pas mal, et la bulle internet a concerné beaucoup de nos copains. Au point où je me souviens d'un dîner où on était avec mon mari les seuls à travailler, les autres étaient tous au chômage. C'était la fin de la bulle. Tout le monde avait été foutu à la porte. Donc il y a eu ce moment là en 2002 où ça a été un peu le grand vide. Donc finalement, chez nos copains, ça se faisait. Je pense que moi, j'avais la réputation d'être un peu à la pointe des nouveaux sujets ou d'avoir de la chance d'avoir des jobs où il fallait inventer les choses. Voilà.
Okay. Donc après Chanel, tu vas dans la magnifique maison Hermès.
Ouais. Pareil. Après Chanel, j'ai été appelée par Hermès. Là.
Après ou pendant?
Bah, j'étais.
J'étais en poste.
Ouais. Ce qui était fabuleux avec la perspective d'Hermès, c'est que là, je quittais enfin les parfums cosmétiques pour arriver vers d'autres univers. Il y avait l'équitation, il y avait la mode, il y avait le cuir, etc. Et je me suis dit, ce qui va être fabuleux, c'est que je vais pouvoir grandir, apprendre des nouvelles choses sur d'autres secteurs.
Et puis être dans une niche avec le tampon sur la tête.
Voilà. En fait, j'avais un peu fait le tour. Et effectivement, quand mes clients Lancôme et L'Oréal me parlaient de leur mascara plus long que long et qu'ensuite Chanel me disait « Alors, on a un mascara plus long que long. » Je dis « Bah, vous avez déjà fait tous un mascara plus long que long. » Et là, je me suis dit « Bah, en fait, on va me parler maintenant de sel, de sac. Au moins, c'est un peu nouveau et c'est plus excitant pour moi. » Et j'ai découvert une maison. Alors, Chanel, ce que j'aimais beaucoup avec cette maison de luxe, c'était l'ambiance, les personnes, et puis la matière, les belles choses. Vraiment, c'était beau chez Chanel. Chez Hermès, j'ai découvert que non seulement c'était beau, mais qu'en plus les coulisses étaient vraiment magnifiques, quoi. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré dès les premiers jours rencontrer des artisans. Qui faisait le travail à la main, me rendre compte que les coulisses humaines aussi étaient vraiment sympas. C'est-à-dire que chez Chanel, on commençait à voir un peu des gens à la L'Oréal, comme on disait, c'est-à-dire qui marchaient sur ton territoire, où la politique était un enjeu. Et chez Hermès, je suis revenue à un monde très respectueux du périmètre de chacun, respectueux de tes décisions, à l'écoute les uns des autres. Ça a été génial. Et puis, moi, j'étais quand même dans des jobs où personne ne comprenait ce que je faisais. Donc aussi à l'écoute de ce que je proposais. Et avec une acceptation, c'est une maison qui s'est donné les moyens, en tous les cas, de se développer sur Internet. Donc j'avais les moyens de mes ambitions et de ma stratégie. Et ça, c'était fabuleux. Enfin, c'était un vrai terrain de jeu sérieux, mais de jeu passionnant.
Ouais. J'ai interviewé Audrey Carsalade qui a bossé, je sais pas, enfin, ouais. c'est tellement grand que...
C'est
que,
grand, mais ouais.
Ouais. Et qui clairement, bon, qui est partie parce qu'elle en pouvait plus, mais elle, clairement, comme toi, elle dit que c'est vraiment une maison où il y a vraiment, enfin, l'image et les coulisses sont raccord, ce qui est pas forcément toujours le cas dans toutes les entreprises.
Moi, j'ai travaillé 7 ans là-bas. En 7 ans, j'ai grandi en amour pour cette maison. Vraiment, je me suis pas dit ah bah ça y est maintenant que j'ai tout compris. En fait, c'est pas très très jojo. Je me suis jamais dit ça. Je me suis toujours dit c'est une maison incroyable, admirable, etc.
Et donc en 2014, tu quittes Hermès.
Ouais. Je prends le temps de te raconter ça parce que c'est important quand même. Mmh. J'ai changé plein de fois de boss et j'avais un boss qui avait fait HEC. Que je vois toujours, que je respecte beaucoup, et sur son bureau il y avait l'annuaire des anciens d'HEC. Enfin, on savait qu'il avait fait HEC. Et moi, j'avais pas fait HEC. Et je me souviens très bien d'un jour où il me dit bon, Perry, je crois que vous avez pas fait d'études. Je dis bah quand même, j'ai mon bac, j'ai fait une école de commerce, vous êtes gentil. Oui, c'est pas la grande école de commerce, mais j'ai quand même fait une école. Et il me dit oui, enfin bon, un jour il faudra peut-être que vous fassiez autre chose. J'avais pas loin de 40 ans quand même quand il m'a dit ça. Bon, je dis ok, très bien. Et puis au bout de plusieurs entretiens de fin d'année, il finit par me dire, Perrine, chez Hermès, on a proposé de vous payer un MBA, un executive MBA. Vous choisissez ce que vous voulez. Le cadeau de rêve, quoi. Franchement, j'étais à un stade où je me disais, ce serait canon. Donc, je choisis, en fait, j'ai eu le choix, donc j'ai choisi de faire un cursus à l'INSEAD, en executive education, pas un MBA, parce que c'était quand même trop long, je voulais pas repartir 2 ans, et là, depuis, j'avais 2 enfants, quand même. Je me voyais pas.
Quel âge?
J'avais 38 ans, probablement, 38, 39.
Et tes enfants?
Alors, mes enfants, c'est compliqué pour moi de Timothée devait avoir 5 ans, et ma fille, du coup, devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça.
Ok.
12 et 5 ans. Et donc j'ai choisi de faire un cursus à l'INSEAD pour devenir directeur général d'une entité d'Hermès, c'était l'objectif. Petit aparté, pendant que j'étais à l'INSEAD, mon boss m'appelle en me disant « Rappelez-moi les études que vous avez faites là, parce que mon fils qui passe son bac, il veut faire des études, le CESEM, c'est pas ça ?» Je dis « C'est fabuleux, vous allez voir Patrick, comme études. » Bon voilà, comme quoi mes études de merde, finalement c'était pas si mal que ça. Et donc je finis l'INSEAD. Le problème c'est que... À l'INSEAD, on me dit, en finissant, on m'a dit, dans votre promo, il va y avoir 50% d'entre vous qui vont rester dans la boîte, rester dans leur vie et faire un pas de plus. Et 50% d'entre vous qui vont changer de vie. Il y en a un quart d'entre vous qui vont divorcer, qui vont changer de vie familiale, personnelle, et l'autre quart qui va changer de carrière. Et en fait, quand ça m'a dit ça, je me suis dit, merde, je suis dans ce quart-là. J'ai tout de suite su que j'étais dans ce quart de changement de carrière, parce qu'en fait, j'étais tellement bien à mon poste chez Hermès que je ne me voyais pas du tout évoluer. Il n'y avait aucun autre poste qui me donnait envie, mais j'aurais remplacé personne au monde. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait aucun poste chez Hermès dans les, je sais pas, dans les 10 000 qui m'intéressait. Enfin, si, je serais bien devenu artisan, à la limite. Mais bon, c'était pas trop ça qui, la perspective. Et du coup, je suis revenue en leur disant, écoutez, il y a un problème, c'est que, merci, mais je m'en vais. Je pars. Alors là, grosse surprise que j'étais bien dans mon poste, on comptait sur moi, il y avait des belles perspectives, j'avais fait grandir mon équipe, on était passé de 2 à 50, voilà. Et là, je leur annonce que je m'en vais. Hermès, c'est une boîte qu'on ne quitte pas, personne démissionne de chez Hermès, c'est tellement, tellement sympa. Voilà, donc je suis partie en me disant, c'est mieux pour moi et c'est mieux pour Hermès. Vraiment, je l'ai vécu comme ça en me disant, bah, moi, j'ai besoin de voir d'autres choses, je crois que j'ai 7 ans... au même poste que j'ai évidemment fait grandir. Hein. Entre-temps, il y avait eu les réseaux sociaux, le mobile, d'autres perspectives, l'international qui était apparu. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir déjà fait plein de tours, plein de circuits internes. Et puis, je me disais, en fait, Hermès, il faut qu'il se passe de moi. Je suis pas essentielle, je peux pas être essentielle. Je peux pas être madame digitale qu'on interroge à chaque fois qu'on a un sujet. Il faut que je m'en aille. Donc, je me suis... J'ai un copain qui m'a dit l'autre jour, t'as fait un suicide professionnel. Bah en fait c'est un peu ça. Je me suis sacrifiée, peut-être pas suicide parce que j'étais quand même très heureuse, mais je me suis sacrifiée pour le bien d'Hermès aussi, en me disant bah en fait c'est bien pour eux et c'est bien pour moi évidemment. Je suis quand même pas que altruiste. Donc voilà, je suis partie de cette très jolie maison, pas du tout à regret, très sereinement, voilà, très pacifiquement. C'est bien passé.
Petite parenthèse, c'est amusant ce que tu disais là sur le fait que pendant le MBA, ça faisait réfléchir et que du coup, cette semaine j'ai pris un petit déj avec une maman de l'école qui est devenue coach business et elle me racontait que pendant son école, pendant sa formation de coach, on leur avait dit qu'au début de la formation qu'il y en avait, alors j'ai plus les stats, mais en gros peut-être l'équivalent de la moitié qui allait divorcer. Après cette formation de coaching et donc du coup je lui disais bon et toi, et elle m'a dit non justement on a fait un pacte avec mon mari en se disant qu'il fallait qu'on reste soudés parce que je j'avais pas du tout envie de divorcer et c'est vrai que tu vois je le vois grâce à mes interviews ma vie à moi et mon entourage c'est qu'en fait ce qui est fou c'est que quand tu te révèles, quand tu deviens toi-même, en fait, potentiellement la personne avec qui tu partages ta vie depuis même des dizaines d'années, en fait, tu te rends compte que finalement cette personne aimait une part de toi qui n'était pas vraiment toi, et puis que toi, t'évolues et que du coup, tu prends des chemins différents. Et moi, j'avoue que quand j'entends ça, je trouve que ça fait peur. Mais finalement, tu te dis, si la personne qui est avec toi n'est pas la bonne personne. Je voyais un post l'autre jour sur Instagram d'Isabelle Laillé que j'ai interviewé et elle mettait c'était une image un message tagué sur un mur qui était ils vécurent heureux mais séparément et alors bon moi j'ai un côté j'ai grandi dans un monde de bisounours où mes parents sont toujours ensemble et maman elle avait 18 ans quand elle s'est mariée et tout donc j'imaginais pas ce type de schéma pour moi mais finalement tu te dis finalement oui qu'est-ce qui vaut mieux c'est être heureux et même si c'est séparément quoi.
Ouais moi je me souviens très bien d'avoir pour la première fois eu un coach qui m'a accompagnée quand j'étais à l'INSEAD. Donc qui remue des choses en toi, hein, qui te pose des bonnes questions, les questions justes, qui m'a fait faire des exercices. Je me souviens d'avoir pleuré en faisant un exercice. Je sais plus ce que c'était, sur un paperboard, il fallait dessiner quelque chose. Je sais plus ce que j'ai dessiné, mais je me souviens que j'ai pleuré. Donc en fait, t'en apprends beaucoup sur toi. Et puis dans ces formations-là, je pense que t'es hyper exigeant. Moi, je me souviens d'avoir passé des nuits blanches sur un bilan comptable parce qu'il fallait le rendre le lendemain matin pour un exercice. Et vraiment, ça, j'arrivais pas à équilibrer les colonnes. Enfin, je suis nulle en compta. Et j'ai passé la nuit complète. C'est-à-dire que j'ai fait une nuit blanche intégrale. Et en fait, réaliser que t'es exigeante avec toi-même, en fait, ça monte au niveau d'exigence pour tout. Alors, déjà que j'étais un peu psychorigide là-dessus, forcément, ça m'a encore augmenté mon niveau d'exigence de fierté de moi. Là, pour le coup, quand tu te donnes à fond dans des études comme ça, t'es fier de toi et quand t'es fier de toi en fait tu te rends compte que les gens qui apprécient pas qui t'apprécient pas à ta juste mesure te méritent pas heureusement mon mari me méritait, mes enfants sont restés voilà.
Et justement par rapport à tes enfants par rapport au rythme travail INSEAD parce que du coup tu bossais en parallèle ou comment ça s'est passé ça?
Alors le principe de l'INSEAD du cursus que j'ai pris c'est beaucoup de travail préparatoire 15 jours sur place un mois au boulot avec du travail restitutif et préparatoire de la session d'après, 15 jours à l'INSEAD, etc. Donc en fait, c'est tu continues ton job. Donc en fait,
t'es en alternance entre guillemets.
En alternance, sauf que en fait, ton job t'es pas remplacé, hein. Donc tu continues. Pour le coup, j'avais connu des congés mat où j'avais été remplacée, où là pour le coup, t'as pas besoin de t'occuper de ton boulot, tu peux vraiment couper. Là, l'INSEAD, mon équipe était prévenue que j'allais pas répondre. Et justement, j'étais assez fière de voir qu'ils se débrouillaient tout seuls. J'étais contente de voir qu'on me dérangeait pas trop, mais j'ai quand même, j'avais un coup de fil par jour au moins. Je faisais un point avec mes responsables, les gens qui travaillaient avec moi, au moins une fois par jour aussi. Donc j'avais, ça s'est cumulé. Je crois que j'ai jamais été aussi fatiguée que ces mois-là. Physiquement fatigué, c'est-à-dire que en plus l'INSEAD le cours, je sais pas si ça se fait toujours et ça se fait tout le temps, mais nous ils nous réveillaient, enfin il fallait être en salle de gym tous les matins, je sais plus à 6h, un truc comme ça, donc on se levait à 5h, mais c'était en plein hiver.
Et du coup tu vivais où quand
À Fontainebleau, enfin c'était Fontainebleau et Singapour, donc on vivait là-bas, j'avais une chambre comme un, j'ai adoré le, ce qui est sympa aussi c'est quand t'as des enfants pouvoir t'échapper, moi j'adorais voyager en voyage d'affaires aller à l'hôtel, là avoir ma chambre à moi toute seule, personne qui me réveille, personne qui m'attend devant la porte des toilettes, etc. C'était canon. mais l'INSEAD, bon, déjà, on bossait beaucoup, voilà. Et puis, l'INSEAD, à 5h, je viens, à 5h20, je mettais mon réveil, parce qu'à 6h, on était en train de faire de la gym pendant une heure ensemble. Et puis, à midi, j'allais courir. Enfin, c'est marrant, comme moi qui suis pas très sportive, en fait, ce développement, cette capacité, cet espace de temps où on dit tu peux te révéler et donner le meilleur de toi. Mais en fait, j'allais courir aussi alors que c'était pas du tout mon truc d'aller courir, quoi.
Ouais, c'est fou comme quoi, comme parfois ça peut révéler des choses en nous. Et est-ce que tu continues à courir?
Alors par moment. Je suis pas très régulière sur le sport.
Sans commentaire.
Voilà.
Donc là, du coup, tu démissionnes de chez Hermès et ouais. Tu rejoins une start-up.
Je rejoins Maison Ulins, qui est une marque de mode très, très luxe. Et en fait, on me donne la mission de mettre le digital en place dans cette maison, ce qui est amusant parce que j'ai la même mission que chez Hermès, sauf que c'est une maison où il y a, je sais pas, 15 salariés, quoi. Donc, c'est une autre dimension.
T'as le même budget.
J'ai le même budget, j'ai des moyens de dingue parce que ça appartient... à une personne qui donnait beaucoup de moyens à cette entreprise-là. Donc ça va très vite. Et puis en même temps, dans la boîte, une espèce d'incompréhension, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on veut pas juste que je fasse le digital, mais aussi que je devienne directeur général. Or, bah, en fait, c'est pas du tout ce pourquoi je suis venue. Et même si j'en ai la capacité, que ça pourrait être sympa, là aussi, je préfère dire non à cette mission qu'on voulait me confier, qui n'était pas la mienne. Je sentais bien que c'était pas là où il fallait que j'aille. J'avais envie de voir d'autres choses. Si j'avais quitté Hermès, c'était pour m'installer en freelance, donc c'était pour rester libre.
Parce que là, du coup, t'étais freelance pour la Maison Ulins, d'accord.
Ouais, c'était un contrat un peu bizarre, mais oui, on peut dire.
Et l'idée, c'était te dire que tu te lançais en mode freelance, quoi.
Voilà. Bon, okay. Je suis partie d'Hermès en me disant je m'installe à mon compte. Et là, on peut dire que j'ai une mission d'un an, en fait, c'est quasiment ça, donc exclusive. Mais et puis après, je me suis vraiment installée avec cette notion de j'ai des clients différents qui peuvent être en simultané, il n'y a pas de souci.
Sur le digital.
Sur le digital, dans le monde du luxe. Ouais.
Ok. Et donc là, comment ça se passe cette vie d'entrepreneur, parce que finalement, ça change.
Alors ça change beaucoup parce que ça change ton rythme de travail. Déjà, j'étais à la maison. Je me suis installée à la maison. Je suis revenue à la maison. Alors avec beaucoup de joie parce que j'avais une fille en sixième et mon fils en CP. Donc j'avais l'impression d'être là au bon moment pour eux. J'avais un peu loupé. Même si j'étais quand même bien présente, mais j'avais un peu loupé le CP de mon aîné. J'avais l'impression d'avoir fourgué mon fils en classe assez rapidement quand même. Là, j'étais à la maison. Et puis, me mettre à mon compte au travail, en fait, j'ai dû apprendre, comme beaucoup, à arrêter de faire des machines toute la journée. Non, je n'ai pas besoin de faire le ménage. Ni d'avoir un dîner prêt quand mon mari rentre du travail, parce que je l'ai jamais fait avant, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc me mettre à prospecter, trouver mes clients, gros challenge pour moi, parce que j'aime pas du tout ça. Mais me mettre en mode, en fait, faut que je trouve ma mission d'après, faut que je fasse ma mission en cours et que je trouve celle d'après. Heureusement, le bouche à oreille, ma réputation ont beaucoup joué là-dessus, donc ça n'a pas été trop douloureux. Là, j'ai appris le relationnel pour le coup, qui n'était pas le démarchage, mais de se dire j'entretiens mon réseau, j'anime mon réseau, voilà. Donc ça, j'ai appris ça avec beaucoup de joie et en découvrant que globalement les gens sont bons. Et ça, c'est une belle trouvaille que j'ai fait dans ma vie aussi, c'est que globalement, quand on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour vous le donner. Tu cherches, tu trouves. Quand tu veux du temps, les gens t'en donnent. Enfin voilà, j'ai trouvé. Il y a bien sûr eu quelques déconvenues et tout le monde n'est pas merveilleux. C'est pas le monde de oui. Mais globalement, moi j'encourage beaucoup les gens à entretenir et à travailler leur réseau parce que c'est merveilleux, quoi.
Et là, je vois sur ton profil LinkedIn que t'as été que t'as donné des cours dans différentes écoles.
Ouais. Alors j'ai donné des cours dans une première école, je sais plus le nom. Dans
un SK.
Voilà. Non, j'ai moyen apprécié. En fait, j'ai trouvé que les étudiants que j'avais en face de moi étaient pas très intéressés En fait, j'avais pas l'impression qu'ils avaient envie d'être là. Donc, pas forcément que à mon cours, mais aussi dans l'école, dans le, voilà. Donc, sur le coup, c'était pas très valorisant. Parce que moi, je donnais beaucoup de mon temps et de mon énergie.
C'était des cours de quoi?
Bah, c'était des cours sur le digital et le luxe, hein, sans surprise. voilà.
Incroyable.
Incroyable, hein. Mais voilà, et HEC, ce fameux directeur qui avait fait HEC avait pris sa retraite, était devenu professeur à HEC et a fait appel à moi dans un programme qu'il avait monté pour intervenir sur le digital et le luxe. Et je continue encore. Alors, ce qui est très drôle, c'est que on se rappelle, j'ai pas tout à fait HEC. Le premier jour où j'arrive en cours, je demande aux élèves, je me présente rapidement, je leur dis est-ce que vous avez des questions sur moi, il me dit, vous êtes de quelle année? Alors, je leur dis, bah, quand même, c'est gonflé. Je pensais qu'il me demandait mon année de naissance, quoi. Alors, je dis, bah, 74. Il dit, non, l'année de diplôme. Alors, je dis, bah, je sais plus, 96. Et puis là, je réalise, bah, oui, 96, mais pas du tout à HEC, quoi. Donc, je leur dis, je suis 96, mais pas du tout de la promo HEC. Il me dit, ah, bah, vous avez fait quoi, alors? Et c'était complètement incongru. Je dis, bah, j'ai fait le CESEM, je leur raconte. Et là, du coup, je suis repartie dans une grande tirade de, bah, en fait, c'est bien de faire HEC, vous êtes l'élite de la nation, sûrement, etc. C'est ce qu'on vous dit, mais il n'y a pas que HEC qui va compter dans votre carrière, quoi. Donc voilà. Donc, je donne des cours à HEC. Alors, c'est quelques heures par an. Et on vient de me redemander encore pour l'année prochaine et je suis trop contente parce que j'adore donner ces cours-là.
C'est drôle parce que j'avais passé un entretien d'embauche, c'était en 2015-2016, donc ça faisait plus de 10 ans que je suis venue dans les années, mais bon, ça faisait quand même plus de 10, ouais, ça faisait peut-être 12-13 ans que je travaillais. Et en entretien d'embauche, il y a quelqu'un qui me dit, vous avez fait quoi comme l'école de commerce? Alors que tu as envie de dire à ce moment-là, quand tu as 12-13 ans de d'expérience professionnelle, ce qui compte, c'est clairement l'expérience et pas l'école de commerce que tu as faite, quoi. Et du coup, je le regarde avec un, sachant que lui, je pense qu'il avait fait HEC ou, enfin, un équivalent. Enfin, en tout cas, c'était pas HEC, c'était le numéro 2 de son époque. Et je le regarde avec un grand sourire en mode, bah, j'ai fait une très grande école de commerce, sachant que j'ai fait une école après bac. Et je lui dis, bah oui, j'ai fait l'IPAG. Et là, il m'a regardé genre en mode, genre scotché, genre en mode. Bon, au final, j'avais été prise. Mais bon, tu te dis, ouais, en fait, t'as envie de dire, enfin, quand ça fait 13 ans que tu bosses, c'est bon, quoi. Enfin, vive la France.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas important. C'est important pour le réseau, c'est important pour d'autres choses, peut-être.
Oui,
mais, clairement. Mais effectivement, ce qui compte plus, c'est ce que, enfin, on en parlera, mais c'est ce que je dis beaucoup maintenant. C'est les stages que tu fais, les activités que tu as, dans ces
c'est études. C'est bosser chez Quick et, c'est
bosser voilà,
chez Quick et, ouais.
Et d'être chef tête pendant tes vacances et de donner du temps aux autres. Et de faire plus de stages que ce qu'on t'en demande, voilà, c'est de trouver ta voie, quoi.
Ouais, on en parlait justement, tu vois, avec Thomas Coget, qui est, c'est l'épisode qui sort aujourd'hui même. Thomas Coget, il était contrôleur de gestion et il a, en fait, il s'est dit, lui, son truc à lui, c'est d'aider les gens sur Excel. Et du coup, il a créé un compte Insta où il a commencé à donner des conseils et tout. Bon, aujourd'hui, il a 178 000 followers. Il a créé une formation sur Excel qui cartonne. Sa boîte, elle a un an et demi, deux ans. Il a déjà deux salariés. Enfin, ça vraiment, c'est vraiment un super, super, super mec. Et il disait qu'en effet, aujourd'hui, avoir un master, ça devient entre guillemets un standard. Et du coup, la différence, c'est en effet, bon, tes expériences. Et aussi, en fait, le fait d'être à sa place. Parce que si t'es à ta place, bah, en fait.
Clairement, je pense que c'est très important. T'as raison. Je pense que c'est vraiment important que les gens sentent que tu es dans ta voie. Moi, j'ai beaucoup parlé de. J'avais l'impression d'être sur une autoroute. Même si c'est pas comme ça qu'on me le présentait. J'ai eu beaucoup de situations où on me dit, ah, c'est long, c'est difficile. En même temps, je suis sur l'autoroute, quoi. L'autoroute, tu risques pas grand chose. Si tu restes sur ta voie, t'entends, tu doubles quelqu'un ou tu te fais doubler. C'est pas une route de campagne très sinueuse. L'autoroute, c'est comme ça. Et qu'en fait, et du coup, c'est confortable. C'est pas forcément toujours la plus réjouissante et la plus exaltante, mais bon, bah, tu vas loin, quoi, avec l'autoroute. C'est toujours la même autoroute, hein. Voilà, moi, j'avais souvent cette image-là dans plein de situations perso et pro. Et je pense que ça se voit quand t'es sur l'autoroute, quand c'est sur ton autoroute, quoi.
Ouais. Après, tu vois, c'est marrant que tu prennes cette image parce que j'ai jamais publié au final, mais je voulais publier un post sur Insta sur justement avant, moi, j'étais clairement sur une autoroute, je fonçais tête baissée, je regardais pas le paysage, et maintenant, bah maintenant je suis sur la petite route de campagne et je prends le temps d'admirer la vue, de faire la pause, parce qu'en fait finalement ouais, il y avait ces, enfin, quand t'es que focus objectif, tu regardes pas la beauté du chemin.
Voilà, non mais l'image a ses limites, hein, je suis d'accord avec toi. Moi aussi je suis sur l'autoroute, mais je suis pas forcément à 150. Voilà, je suis peut-être un danger pour certains, mais en tout cas je suis, non mais je veux dire, quand on voit les gens qui sont à leur place, et ça c'est important plus qu'effectivement le diplôme qu'ils ont eu il y a 12 ans, ça n'a aucun sens, quoi.
Et alors du coup, en parallèle de ces missions, tu fondes Human Learning Expedition.
Ouais. Alors en fait, quand je me suis installée à mon compte, j'étais très inquiète de part de mission. Et puis on m'a dit, mais Périne, il n'y aura aucun souci. Va voir une fille qui est installée à son compte depuis un an. Et puis elle va te raconter elle comment elle marche. Donc j'ai été voir une fille qui s'appelle Amélie, à qui je dis bonjour, et elle m'avait expliqué que en fait sa réputation, son réseau lui amenait des missions. Elle avait fait une formation en coaching, elle avait plein d'outils, elle avait déjà facturé, elle m'avait filé ses templates de factures. Je me suis dit, elle est géniale cette fille, trop sympa. Et en fait, tous les 6 mois, tous les ans à peu près, on déjeunait ensemble pour faire un peu le point de nos activités, en disant, tiens, si un jour on a l'occasion de travailler ensemble, ça pourrait être sympa. Et puis, on se rendait compte en discutant qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes réflexions, et en particulier une réflexion qui était de dire, c'est super le digital, l'innovation, la transformation, mais ce qui compte quand même, c'est la façon dont les gens appréhendent ces changements et implémentent ces changements dans le temps, et donc ils changent de posture au travail. Et au final, c'était qu'est-ce qui fait qu'ils sont à l'aise dans leur travail. On parlait pas du tout encore de bonheur au travail ou de bien-être au travail, mais on s'était demandé qu'est-ce qui fait que les gens qui sont dans une transformation apprécient et réussissent à implémenter cette transformation dans le temps. Et ne voulant, on avait bien une idée en tête, hein, on pensait bien aux soft skills. On a été faire une première étude en allant voir une centaine de personnes de notre entourage qu'on admirait en fait dans leur métier. En leur disant, voilà, t'en es là, bravo, t'es super chasseuse de tête, qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Est-ce que c'est ton diplôme? Est-ce que c'est ton réseau? Est-ce que c'est ta curiosité, ton audace, etc.? On les laissait parler. Et puis évidemment, sans surprise, ils nous ont tous parlé de mots qui, quand on les rassemblait, étaient des soft skills, des compétences comportementales. Et on s'est dit, en fait, il faut absolument qu'on aide les entreprises à former aux compétences comportementales, en fait, à l'amélioration de ces facteurs qui permettent d'avoir des transitions, des transformations d'entreprise durables. Donc, on a fondé Human Learning Expedition, qui n'a pas trouvé son public. Ça a été assez intéressant parce qu'on a essayé de pivoter plein de fois, peut-être trop d'ailleurs. On était assez impatiente. On a créé plein de choses très intéressantes, très innovantes, et on voulait surtout pas rentrer dans une case. Ce qu'on faisait, ça ressemblait à du coaching, mais on voulait pas faire du coaching pur. Moi déjà, je suis pas coach. Elle est coach, mais pas moi. On a eu plein de missions super intéressantes. Ce qu'on aimait beaucoup, en fait, on se rendait compte, c'était inventer la mission avec notre client plutôt que de lui vendre un produit déjà fait sur l'étagère. Donc ça, c'est pas très
rentable,
pas très scalable, ouais. Comme ils disent. Donc on a dû revoir pas mal notre copie. Et au final, la triste nouvelle, c'est qu'on a fini par liquider HLX. Il y a le Covid qui est passé par là, la crise du Covid qui a fait que, clairement, pour nos clients, c'était plus trop l'enjeu. Quand on leur disait, oh, développez la curiosité de vos salariés, ils nous disaient, vous êtes gentils, mais si on pouvait déjà les voir au bureau, ça serait cool. Donc, on a fini par liquider HLX et repartir chacune de notre côté sur plein d'autres aventures, sachant qu'on avait trouvé une pépite dans cette aventure-là, non seulement de travailler ensemble, ça avait été fabuleux de voir comment on passe de indépendante à créer une entreprise, être associée et travailler à deux, créer à deux, c'était vachement intéressant. Et puis on a trouvé ces podcasts. En fait, on dans les choses qu'on avait en commun, on écoutait des podcasts. Et puis un jour, on s'est dit, mais tiens, mais si on ne trouvait pas qu'on lance un podcast, on s'est dit, bah ouais, tiens, on va le faire. Donc on a acheté le matériel. Je me souviens encore d'Amélie sur mon canapé de salon. On a déballé nos boîtes. Et puis, on a branché les micros et on s'est dit, allô, 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 1, 2, tu m'entends, 1, 2, tu m'entends. Et puis, on a regardé des tutos sur YouTube pour monter les podcasts. Et puis, on est devenu producteurs, réalisatrices de podcasts, voire même studios de podcasts dans certains cas, parce qu'on a aussi eu des clients qui nous ont demandé des podcasts, de réaliser des podcasts pour eux en marque blanche, etc. On a inventé plein de choses autour du podcast. On a fait des team building avec du podcast. Enfin, on a fait plein de choses fabuleuses. Donc, moi, ce que je retire beaucoup de Human Learning Expedition, c'est cette découverte de l'univers du podcast qui aujourd'hui m'anime encore beaucoup.
Et comment tu l'as vécu, justement, du coup, cette fin de HLX?
C'était très dur pour moi. En fait, c'est Amélie qui est peut-être la plus raisonnable de nous deux, qui a dit, bon, là, on n'arrive pas à vivre à deux sur un sujet comme ça, faut qu'on arrête. Sur le coup, je dis, bah, tu vas arrêter, t'arrêtes, et je reprends. Et en fait, je me suis rendu compte que là où j'avais du mal, c'était presque pour le regard des autres. Dire que bah, ça n'avait pas marché, c'était dur pour moi. Parce qu'en plus, quand on est à son compte, on dit toujours « ouais, ça va bien ». Parce qu'en fait, on se dit « le bien amène le bien ». Quoi. Donc, ça marche bien, ouais, ça marche super bien. Comme ça, bon, en fait, ça marche pas forcément super bien ce jour-là. Mais bon, ton futur client ou ton prospect va croire que c'est canon et que tu cartonnes et que tout le monde te veut. Donc, faut absolument qu'il signe aujourd'hui. Donc, admettre que bah non, c'était pas incroyable. Quoi. Moi, j'avais l'impression de ne pas avoir choisi mon destin pour la première fois, en fait. C'était la première fois où, sur mon LinkedIn, sur mon CV, il va falloir avoir une espèce de cassure. Donc moi, j'avais dit, non, mais je vais reprendre HLX, je m'en fous, je ferai autre chose, même sous le même nom, je m'en fous. J'adore ce nom, je trouve ça très bien, ce logo me va bien, puis je ferai autre chose, je ferai ce que je veux, mais voilà. Puis en fait, elle m'a dit, mais non, en fait, ça marche pas, parce que là, autant on était 50-50, enfin bien associés ensemble sur le sujet, HLX, c'est quelque chose qu'on a fondé ensemble. Là, tu peux pas l'embarquer. On n'avait pas envie de parler d'argent entre nous sur ces sujets-là. Donc, il n'avait pas de valeur particulière et en même temps, il avait de la valeur pour nous. Enfin, donc finalement, j'ai dû me résoudre à le fermer. Je suis devenue liquidateur. Même, je pense que je me suis un peu imposé ça pour voir ce que c'était cette expérience-là. C'est compliqué hein, psychologiquement. Déjà administrativement c'est inintéressant au possible, ouais c'est une... Et puis admettre là, hier ou avant-hier on a un ancien client qui est revenu vers nous pour une question et en fait on a dû lui dire bah en fait non c'est genre, merci mais en fait on a fermé quoi, on a fermé puis on est passé à autre chose donc ça nous intéresse plus et ça ouais difficile.
Et comment t'as affronté du coup le regard des autres par rapport à ça ?
Bah là où j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai remplacé par autre chose, quoi. Je pense que j'aurais eu du mal à. Enfin, j'ai eu du mal. Hein, ça a été. J'ai eu 6 mois d'incertitude. De qu'est-ce que je vais faire ? En fait, j'ai pensé le reprendre toute seule, le rebaptiser. Hein, quand on a vu que le Human Learning Expedition ne pouvait pas exister, bah, je me suis dit tant pis, je vais l'appeler Tartempion. Puis ça sera la même chose. Je me suis dit, ben en fait, dans la même ligne, j'ai monté entre temps sur d'autres sujets, j'ai monté une association d'entrepreneuses dans mon arrondissement de Paris. Ça s'appelle les Entrepreneuses du 16, et on est parce que je crois beaucoup qu'il y a une question de sororité, qu'il y a une question de les femmes entrepreneurs ont des besoins, des problématiques particulières, que l'aspect local est très important pour moi. Le rythme de vie, etc. Donc, en fait, j'ai monté les Entrepreneuses du 16 et je m'étais dit, en fait, ça marche vraiment bien. On est 250 femmes dans cette association-là. Ça fait beaucoup de bien lors des rencontres qu'on organise. J'ai l'impression d'être à ma place, d'aider. Et je me suis dit, en fait, je vais monter les Entrepreneuses du 17, du 18, du 19, de Marseille. Bon. Je savais que tous ces sujets de femmes m'intéressaient. En même temps, je me disais... Je suis pas sûre que je l'ai monté que pour ce côté féminin, féministe. Je suis pas tout féministe dans le sens puriste du terme. Et puis, donc j'ai flotté sur ce côté d'accompagnement de l'entrepreneuriat pour les femmes, où je me sentais pas à ma place. Je sentais que c'était, j'aurais pu le faire. J'aurais pu m'installer là et le faire. Mais au fond de moi, c'était pas là où je devais être. C'est comme si on me disait, c'était pas là où on m'appelait, quoi. Je pense que c'est cette petite voix que tu connais. Qui me disait non mais ouais tu saurais le faire mais tu saurais aussi être éboueur et être faire des frites chez Quick
hein, et donc t'es dans ta zone potentiellement d'excellence mais pas dans ta zone de génie
voilà et puis t'es mal à l'aise je me souviens que l'excuse que je me disais c'est pour faire ça je vois des filles qui sont sur Insta par exemple qui se mettent vachement en avant qui parlent d'elles toute la journée et moi autant ça me gêne pas du tout de m'exposer, autant pour un sujet comme ça, j'aurais l'impression d'être fake, quoi, parce que bah non, moi j'ai quand même pas d'entreprises qui ont cartonné, quoi. Voilà. Donc en fait, je vais pas faire semblant que ce matin j'ai 50 rendez-vous de prospects qui sont arrivés tout cru. J'ai adoré prospecter toute la journée hier, mais non, pas du tout, parce que je déteste ça. Donc j'avais l'impression que ça allait être fake et je voulais pas être dans le faux, quoi. Surtout en me montrant, quoi. Autant me mentir à moi-même, bon, bah ça c'est mon problème. Enjoliver un peu la réalité, bon, ça j'admets que c'est un moyen de commercial, que je, voilà, ok. Mais alors pour le coup, m'exposer pour de faux, non, ça je peux pas, quoi.
Et financièrement, comment t'as fait du coup quand ta société a fermé? Parce que du coup, t'avais pas le droit au chômage.
Alors ouais, j'avais longtemps plus le droit au chômage. J'ai profité de 2 ans de chômage au début, ce qui était fabuleux, merci l'État. Alors j'ai mon mari qui travaille. J'ai de la chance. J'ai cette chance-là de pouvoir m'appuyer, et encore aujourd'hui, hein, beaucoup sur les revenus de mon mari et les revenus qu'on a eus. Alors, c'est un sujet perso, mais je pense que c'est très important dans le pro. Avec mon mari, on a fait des très bons choix, des bons investissements au bon moment. On a construit un patrimoine qui nous sécurise beaucoup, ce qui fait que l'argent est un sujet, mais n'est pas un souci. Et qu'on s'est toujours donné les moyens... l'un et l'autre, et la liberté de pouvoir entreprendre ou changer, ou quand on changeait de boulot, hein, d'un boulot salarié à un autre, il y a quand même un risque, on se met en période d'essai, on a une période d'essai, qu'est-ce qui se passe si... Mais on avait bien gagné notre vie très longtemps tous les deux, donc aujourd'hui, le fait que je ramène plus autant d'argent dans le couple, ben, en fait, c'est pas trop un sujet. Ce qui compte beaucoup, c'est mon bien-être psychique, quasiment, hein, même. Je pense que mon mari, il préfère me voir heureuse et épanouie en fin de journée que lui dire, voilà, le chèque et ma paye du mois. Et ça a été libérateur, ce qui fait que vraiment, je me suis dit, en fait, je peux pas me mentir et je veux pas... Il y a un truc qui m'avait... Quand j'ai fait l'INSEAD, je retiens une chose de l'INSEAD, c'est... Il y a une formule financière que j'ai bien sûr oubliée, mais qui en gros qui disait l'investissement que tu mets dans ta boîte, comment est-ce que tu pourrais l'investir mieux ailleurs? Est-ce que vraiment ce que tu vas mettre, cet euro-là que tu mets pour ce projet-là, est-ce que tu pourrais pas le mettre ailleurs, peut-être à plus long terme, pour autre chose qui plus tard aurait une expected value, voilà c'était le mot qui disait, un outcome, une perspective plus importante. Et c'est comme ça que je raisonne dans ma vie. Est-ce que l'énergie que je mets, le temps que je mets aujourd'hui, il est au bon endroit? Est-ce qu'il est bien investi? Est-ce que je m'investis bien? Et investir, c'est pas forcément le bénéfice tout de suite. En fait, c'est aussi de se dire, ouais, en fait, si ma vie s'arrête aujourd'hui, en fait, j'aurais été contente de faire ce que j'ai fait là. Oui, honnêtement, je pense que si je reprends un job salarié avec le plein emploi qu'on dit aujourd'hui, je suis quasiment sûre que je peux gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux ma vie. Heureusement, j'ai quelques missions toujours sur le digital et le luxe qui me tombent dessus et sur l'organisation une fois de temps que j'accepte, parce que je suis contente de faire rentrer suffisamment d'argent aussi pour investir sur mes projets, pas tant pour acheter faire les courses à la maison, quoi. Voilà, donc ça, j'ai cette chance-là, j'avoue, qui est très confortable de se dire, j'ai Thibaut qui a des revenus, et puis on a un revenu familial, en fait, qui fait que, bah, en fait, on peut se permettre de prendre le temps, de développer, d'investir comme on veut.
Ce qui est un vrai luxe.
Ce qui est un vrai luxe, j'avoue, complètement, et qui était peut-être aussi... une disparité que j'avais avec Amélie quand j'avais acheté Human Learning Expedition, c'est-à-dire que oui, on voulait toutes les deux être payées la même chose. Sauf que moi, en fait, cet argent-là, s'il n'était pas là, ça n'était pas grave. C'était toujours mieux. Et pour mon estime personnelle, c'était vraiment bien qu'il soit là. Franchement, enfin, pas gagner d'argent, je préférais dans ce cas-là me dire, bah, ok, j'assume, je suis bénévole, j'ai une association où je suis bénévole, par exemple, où je voilà, très bien, ok. Ou j'ai un job payé au SMIC, parce que c'est des jobs payés au SMIC, c'est comme ça. Mais quitte à entreprendre, là, j'aime bien gagner de l'argent, j'aime bien générer du chiffre d'affaires. Sauf que, ben, moi, le fait de me payer n'est pas essentiel. Voilà.
Ouais. Je pense que c'est important de, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent en disant, bah voilà, ça t'est tombé tout cru. Bon, on rappelle quand même que t'as payé ton permis de conduire en faisant les frites chez Quick et que, moi je sais que parfois, je rencontre des gens, ils disent, ah, mais ils se rendent compte, lui, il a plein d'argent. Mais en fait, je sais pas quel est l'investissement que vous avez fait qui fait que vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui. Mais.
Je vais en parler si tu veux, parce que c'est important. Ouais. Effectivement, j'ai reçu de mes parents plein de qualités, mais j'ai pas reçu d'argent. Voilà, ils m'ont pas fait de chèque sur mon compte, voilà. J'ai commencé à travailler à 22 ans. J'ai pas payé mes études de commerce, ça c'est mes parents qui les ont payées, mais je raconte souvent et mon père à la fois il a été très généreux, il nous a payé un appart, mais je me souviens que le premier mois, j'avais payé ma carte à Londres. J'ai payé ma carte Navigo quoi de Londres.
La Oyster Card.
Voilà, j'ai fait mon premier plein et en fait, je n'avais plus d'argent. C'est-à-dire que le 2 du mois, une fois que j'avais fait mon plein dans mon frigidaire, je n'avais plus d'argent. Donc j'ai travaillé au pub pendant toutes mes études, je travaillais 6 jours sur 7 au pub tous les soirs. Donc j'ai pas payé mes études mais j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent très vite. Et puis pour tout te dire, Thibaut et moi, on savait qu'on pouvait pas avoir d'enfant biologique. Donc on était dans un processus d'adoption qui allait être long, qui était sur une autre type d'autoroute, voilà. Ce qui fait que quand j'ai travaillé, moi je travaillais parce que fallait que je travaille, fallait que je m'occupe la tête. Donc en fait j'ai travaillé, j'ai cartonné, j'ai eu des jobs où vraiment je me suis beaucoup investie. Et tu vois quand je disais on travaillait 6 jours sur 7, ben ouais en fait on savait qu'on pouvait pas avoir d'enfant pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc de toute façon notre enjeu, c'était notre couple et puis le travail. Et ce qui fait que, ben oui, en fait, on a beaucoup travaillé. Et puis, on a très vite monté en grade et donc en salaire. Et en fait, on a très bien gagné notre vie assez vite puisqu'on avait des gros postes assez tôt dans notre carrière. Moi, chez Hermès, chez Chanel, j'avais des très gros postes avec des très grosses équipes et j'étais très, très bien payée. Mais parce que au début de ma carrière, sachant qu'on allait adopter nos enfants, en fait, c'était une liberté pour nous de se dire en fait, je sais que pendant 2 ans. Alors peut-être que c'est aussi intéressant d'en parler parce que peut-être des personnes dans mon cas en fait, adopter, ça veut dire aussi que tu n'as pas ces 9 mois d'attente et que moi, je me souviens encore d'être arrivée chez Chanel et chez Hermès en leur disant écoutez, mon mari et moi, on est dans un processus d'adoption, alors. A priori, on va pas en enfant tout de suite, mais en même temps, je vous dis ça, si ça se trouve, la semaine prochaine, on a un enfant qui nous arrive. Donc, en fait, il faut que vous preniez le risque que, et vous allez me payer, même si je pars la semaine prochaine. Il n'y a pas ces 6 mois de carence où on dit au début, et je me souviens, il y avait ça dans les contrats, vous pouvez pas tomber enceinte. En gros, c'est pas marqué comme ça, mais en gros, on vous paye pas le congé mat des 6 premiers mois. Moi, je leur disais, je veux que vous enleviez cette clause-là, parce que moi, potentiellement, je signe, je commence lundi, et mardi, je pars. Et donc en fait c'est ce qu'ils ont accepté, les DRH de Chanel et Hermès, cette incertitude là c'était un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est un peu une épée de Damoclès heureuse hein, pour moi, moins pour Chanel. Enfin, je me souviens très bien des deux situations où quand mes enfants sont arrivés, nos enfants sont arrivés, où en fait tu reçois un appel de quelqu'un qui te dit un enfant qui vous attend. Alors c'est des enfants en France,
ils avaient quel âge quand
ils sont arrivés? Quand ils avaient 3 mois, donc c'est des tout petits bébés. Mais on t'appelle et on te dit t'as un enfant qui t'attend, il sera sous temps 15 jours. Quand t'es dans des, je suis en train d'être sortie j'ai répondu au téléphone pour mon deuxième, j'étais avec mon boss et mon surboss, je les ai appelés dans une réunion où je vois un numéro que je connais pas qui m'appelle, donc je réponds. Je pense que je l'ai senti et on m'a dit voilà, vous avez un deuxième enfant qui vous attend, ce sera le dernier. C'était exceptionnel d'avoir un deuxième enfant. Et cette réunion, elle était pour lancer un projet de 2 ans avec un énorme investissement. Et je suis revenue dans la réunion en disant « Désolé, pardon d'être sortie. Bon, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que je vais avoir un deuxième enfant. J'ai une très mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, votre projet, j'en ai rien à foutre. Je me barre. » Et je me barre là tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'en 3 jours, j'ai organisé mon congé mat de 6 mois, quoi.
Et du coup, ça faisait combien de temps que t'étais arrivée au final dans les deux entreprises?
Ça faisait à peu près 2 ans à chaque fois.
Ouais, donc c'est au final,
ouais, ça s'est pas arrivé,
la clause, c'était pas.
Ouais. En fait, c'était surtout pour que.
C'était honnête, ouais.
C'était pour que ça soit sur un sujet sur la table. Et du coup, j'étais à l'aise, j'en parlais pas forcément à toutes mes équipes, mais j'en parlais aux personnes qui travaillaient directement, qui m'étaient directement rattachées. Ils savaient que ça pouvait arriver. d'un jour à l'autre, mes boss successifs, voilà, c'était dans le contrat et c'était voilà, c'était ben c'est comme ça.
Ça faisait partie du package.
Voilà, ça fait partie de mon package, ouais. Et ce qui fait qu'en fait non seulement ça a joué ça a été très bénéfique au début de ma carrière parce que j'ai pu beaucoup m'investir, mais aussi ben j'avais pris goût au travail. Donc en fait moi quand je suis rentrée de congé mat, alors j'ai jamais surinvesti mon boulot, c'est-à-dire que je me souviens d'être rentrée chez Chanel de congé mat en leur disant bon, avant je partais peut-être à 8h du soir, 9h, etc. Mais maintenant c'est 6h30, 7h max, je rentre à la maison, il n'y a plus de réunion à 6h, etc. Donc ça, j'ai toujours tenu bon là-dessus, mais avec une force de travail qui fait que ben en fait j'étais promue plusieurs fois et avec des bons salaires. Donc oui, l'argent que j'ai aujourd'hui qui me permet d'être plus sereine et moins aux abois quand je monte un projet, je l'ai mérité, quoi.
C'est du coup, c'est de l'argent que vous avez investi.
On a investi. Alors, on a une vie très équilibrée. On a de la chance d'avoir notre résidence principale qui est payée. Voilà. Et d'autres avantages comme ça. Mais c'est de l'argent qu'on a bien investi. On n'a pas fait d'investissements en bourse qui ont été incroyables. On n'a pas fait de la crypto-monnaie. On a été plutôt dans des investissements pépères, dans la pierre. Voilà, mais ça s'est bien passé pour nous.
Et bon, le fait de ne pas avoir à payer de loyer, ça.
Ah ben oui, ça, ça change tout. Ben, bien sûr.
C'est sûr. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi ta vie professionnelle?
Alors aujourd'hui, je dis que je suis la voix pour trouver sa voix. Tu pourrais dire ça aussi, toi. C'est en fait, il y a 2-3 ans, quand ma fille Charlotte était au lycée, son rêve d'être devenir vétérinaire est tombé à l'eau d'un coup parce que deux choses. Elle a fait un stage dans un cabinet vétérinaire et en fait, elle s'est rendue compte que, bah, en fait, elle détestait voir du sang. Et que elle trouvait que en dehors du boulot de vétérinaire au cabinet vétérinaire il y avait rien d'autre intéressant à faire. Bon, ben comme ça c'était réglé. Et elle a fait elle est orientée sur une première STMG qui est une première qui fait du management, de la gestion, etc. Et pas du tout de choses scientifiques qu'il faut faire pour être vétérinaire. Sauf que là, en fait, elle qui avait toujours rêvé d'être vétérinaire et en gros elle voulait caresser les chevaux, quoi. C'était sa passion. Ben, fallait retrouver quelque chose. On était en plein confinement et puis on s'est documenté, on a regardé. J'ai découvert un monde de l'orientation que j'ai trouvé très complexe, très oppressant, stressant, moche, avec plein d'acronymes, pas beau, qui avait beaucoup changé depuis ma génération et qui était stressant pour moi, stressant pour Charlotte. Et puis pas de podcast que j'adorais, que je savais faire et puis que j'aimais bien écouter et il y en avait pas. Et j'ai dit à Charlotte, tu sais, Charlotte, on va monter un projet ensemble, un projet entrepreneurial ensemble. Comme ça, tu vas voir ce que c'est que le management, la gestion, etc. Tu me dis que tu pourrais faire de la communication. Bah, tiens, voilà un micro. Tu vas nous raconter des choses. Tu vas communiquer. Et puis, on va le faire ensemble, ce podcast orientation. Non seulement moi, ça va m'intéresser pour t'aider, mais en plus, si je peux aider d'autres gens, en fait, ça sera toujours ça de prix. Et donc, j'ai décidé de monter le podcast qui s'appelle Azimut, qui est le podcast de l'orientation et qui accompagne les jeunes et leurs parents dans les méandres de l'orientation au lycée et post-bac. Aujourd'hui, on s'est étendu seulement sur la France, on s'intéresse aux études en France seulement. Et voilà, c'est un podcast qui aujourd'hui a plus de 250 épisodes. On s'appuie sur 50 conseillers en orientation parce que évidemment, on n'y connaît rien, donc on va pas rien à raconter. Donc, on a été chercher les experts du sujet, qui sont des conseillers d'orientation, qui nous donnent à la fois les sujets et le contenu, et puis on l'enregistre. Charlotte, l'année dernière, elle a toute une rubrique à elle, où elle a fait plus de 20 épisodes, où elle a raconté ce qu'elle vivait en tant que jeune étudiante, enfin lycéenne dans l'orientation. Donc, c'est amusant parce qu'elle raconte clairement, très honnêtement, je rêve de faire telle école à Lille. Bon, non, finalement, je voudrais faire telle école à la Défense. Ah bah, je fais une prépa pour me préparer à tel concours. Ah bah, finalement, je vais pas faire le concours. Donc, en fait, elle raconte vraiment comment elle a vécu les choses de l'intérieur. C'est hyper intéressant de voir comment elle l'a fait. Et puis, elle a appris à monter un podcast. Elle l'a fait toute seule. Enfin, les épisodes, elle les a montés toute seule. Elle s'est lancée un défi incroyable au moment de la présidentielle, d'aller interviewer tous les candidats à la présidentielle. Elle avait 18 ans, elle allait voter, elle voulait que tous les jeunes de sa génération votent aussi. Bon, ça, c'était, elle a découvert ce que c'était que le réseau, le démarchage. Elle a réussi à interviewer un candidat à la présidentielle et pas les autres, malheureusement. Donc voilà, donc on a un podcast qui traite de l'orientation, qui informe et qui aide les... En fait, moi, mon grand dada, j'ai découvert que je l'ai fait un peu par opportunité. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un vide. Oui, il y a un enjeu business parce que les formations qui veulent apparaître dans le podcast payent des épisodes sponsorisés. C'est comme ça que je gagne de l'argent. J'imagine que je vais pouvoir bientôt sortir une offre d'accompagnement. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Alors, Charlotte, elle est partie en école de commerce comme elle voulait. Elle a eu ses études.
Elle donc est partie là, où, du coup?
Alors, elle est partie à l'EMLV, à La Défense, qui est une école de commerce post-bac du Pôle Léonard de Vinci. Qui était l'école qu'elle voulait à la fin de son année. Ça tombait bien, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Là, elle vit sa vie d'étudiante. Elle me dit régulièrement, je vais venir travailler avec toi. Oui, oui, oui. Pour l'instant, elle travaille. Voilà, elle est en école. Elle profite de ses premiers mois en école et je trouve ça super. Donc, mais l'idée, ça serait de sortir un programme d'accompagnement des parents. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert que ce qui m'amusait beaucoup et ce que j'avais vraiment envie de résoudre, c'était cette équation des parents qui ne trouvent pas leur place dans ce projet d'accompagnement de leur enfant. Ils disent on n'a pas appris, ben oui, mais t'as pas appris non plus à faire marcher, et à faire faire du vélo à ton enfant, et pourtant t'as réussi à le faire. Donc il y a aussi des substituts intéressés, t'as réfléchi, et voilà. Moi je pense que les parents peuvent vraiment beaucoup s'investir pour aider et accompagner leur enfant. Donc ça, je le fais. Pour l'instant, je suis en train d'écrire un livre. Pour l'instant, je suis en train d'essayer d'inventer ce programme d'accompagnement plutôt collectif. Moi, je ne vois pas trop un accompagnement individuel. Voilà, pour développer le business. Donc Azimut, c'est aujourd'hui un podcast, mais demain, j'espère que c'est un service, une plateforme, enfin, plein d'autres choses sur l'orientation.
Génial. Ouais, sachant qu'il y a, enfin, tu vois, ça a été une vraie. Alors, c'est pas des personnes qui sont étudiants, mais donc toutes les personnes que j'interviewe, je pense que la personne la plus jeune que j'ai dû interviewer doit avoir peut-être 28-30 ans. Mais en fait, le truc qui m'a vraiment énormément surprise au fur et à mesure des interviews, tu vois, j'ai dû interviewer à peu près 100 personnes depuis le début du podcast, c'est qu'en fait, quel que soit ton univers social, il y a des préjugés sur les études, c'est-à-dire ok, t'as grandi, enfin moi j'ai grandi à Neuilly, j'ai pas fait de prépa clairement, même déjà j'ai fait ES donc j'étais un peu une ratée à l'école, et donc t'as une espèce de pression sociale qui vient pas forcément de tes parents mais qui vient vraiment de l'environnement où tu es. Et à côté de ça, tu vois, je pense à Claire Desmarie Poirier qui a grandi au Havre, ses parents ils étaient syndicalistes, ils bossaient à l'usine et tout. Et elle avait découvert Sciences Po et elle s'est dit mais waouh, mais c'est exactement ce que je veux faire. Et on lui a dit mais non, mais c'est pas pour toi. Mmh. Et c'est fou ce truc de se dire qu'en fait d'où que tu viennes, il y a des préjugés des barrières que tu te mets parce que tu te dis bah par rapport à mon univers, par rapport à mon métier. Je pense aussi à Cyrielle qui voulait être dessinatrice. Elle s'est dit bon bah au moment de ses études, elle s'est dit ok bon bah j'aime dessiner donc je vais devenir architecte. Sauf que bon bah à un moment elle n'était pas heureuse en tant qu'architecte et donc du coup bah ça elle s'est éteinte à petit feu sur son métier d'architecte et aujourd'hui elle est illustratrice, elle cartonne et c'est génial. Et c'est fou vraiment ce truc des barrières que même si c'est pas les parents qui mettent les barrières, les enfants se mettent eux-mêmes aussi des barrières.
Alors il y a ça et puis il y a le fait que le paradigme a changé complètement. C'est-à-dire que avant on envisageait des études pour un métier, pour une carrière un peu toute tracée. Notre génération disait bon peut-être que tu vas changer un peu, mais voilà. Enfin on n'est quand même pas si nombreux que ça à avoir changé complètement de voie de métier. Nos enfants vont changer de voie de métier et voilà. Et moi je suis très très heureuse que Charlotte elle fasse une école de commerce généraliste. Aujourd'hui, parce qu'en fait, même si elle dit qu'elle veut faire de la communication et du digital et qu'elle veut être community manager, je suis sûre qu'elle ne sera pas community manager en communication dans le digital dans 3 ans, parce que ça aura changé, elle aura mûri. Et puis, même si elle commence avec ça, 2 ans plus tard, elle aura envie de changer. Je vois les anciens stagiaires que j'avais chez Hermès, que je continue à voir, quand je les vois, ils me disent « ça fait quand même 2 ans que je suis à mon poste, alors il va falloir que je change ». Je me dis, mais est-ce que toi, tu raisonnes comme ça? C'est-à-dire que vraiment, tu te dis, ça fait déjà 2 ans. Moi, je me disais, ça fait bientôt 6 ans, il va falloir que je commence à envisager de changer, quoi. Voilà.
Ouais, et puis même, tu vois, j'avais fait une recherche quand j'ai écrit mon livre là, qui s'appelle « Ici, changer de métier ». Clairement, bah, par exemple, moi, je sais que quand j'étais en école de commerce, le community manager, c'était un mot qui n'existait pas.
Bien sûr.
Et le nombre de métiers qui ont disparu, enfin, et qui se sont créés, tous les jours, en fait, il y a des nouveaux métiers qui disparaissent et qui se créent. Donc, en effet, se dire qu'on va faire le même métier toute sa vie, c'est complètement utopiste.
Oui, c'est ça. Et c'est important de que les parents, en tous les cas, se rassurent sur ce sujet-là en se disant, c'est pas grave si aujourd'hui il sait pas. Et à la limite, moi, j'aime pas trop quand les parents me disent, il veut être absolument pilote, je sais pas quoi, il veut piloter tel genre d'avion. Ben, en fait, le truc, c'est que dans 3 ans, peut-être que cet avion-là, il n'existera plus. Donc, ce serait quand même trop dommage que on entretienne son rêve sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on, je sais pas, derrière le pilote, j'ai n'importe quoi, il y a le voyage, il y a la découverte, il y a l'équipe.
Le why derrière, quoi.
Voilà. Ouais. Et c'est peut-être ça qui est plus important d'aller creuser et de se dire, ben, en fait, derrière, je vais aller chercher là où, bah, là où, je vais pouvoir donner faire de mon mieux, encore une fois, ça revient, mais faire de mon mieux, et du coup, être à l'aise dans plein de secteurs différents, là où la vie ne m'importait, enfin, nos enfants peut-être qui ont voyagé dans le monde aussi, où ils vont découvrir de nouvelles choses, et ce qu'il faudra, c'est qu'ils soient adaptables, quoi.
Ouais, c'est clair. Comment t'écoutes ton intuition?
Beaucoup, beaucoup, tout le temps, souvent. Je me pose la question de qu'est-ce que j'en pense. Qu'est-ce que j'en pense et quand c'est pas juste, je m'écoute beaucoup. Alors, je m'écoute spontanément, je fais pas de méditation, j'en ai fait mais j'en fais plus, je veux en refaire, mais je m'écoute spontanément. Alors mon mari dit que je suis sauvage dans le sens où quand j'ai une envie, un désir, un ressenti, je le mets en marche, presque un peu trop, parce que je me retiens pas. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Je suis à une soirée, j'ai envie de partir, je m'en vais. Alors je m'en vais, bah lui non, bah en fait du coup je rentre à pied. Et je rentre à pied, je vais pas l'attendre le temps que, si moi j'ai envie de rentrer, je rentre. Mon intuition c'est que bah c'est le bon moment pour moi en fait. Après je vais plus m'amuser. L'intuition business c'est est-ce que je le sens bien? Est-ce que je vais avoir assez d'énergie pour aller au bout de ce projet-là? Si je sens que oui, bah en fait je me dirais oui, et je vais m'écouter au fur et à mesure, et je suis capable de lâcher des choses en cours de route en me disant, bon, en fait, j'ai lancé ça, mais là, mon intuition me dit que je me suis plantée, et il n'y a pas de vérité vraie et constante, en fait. Donc, je m'écoute beaucoup.
Comment tu célèbres tes réussites?
Pas beaucoup. Pas assez. Pas assez, pas beaucoup. C'est une bonne question. Voilà, je vais pas te mentir et je vais pas te raconter d'histoire. Voilà, je le fais pas mais c'est une vraie bonne chose à faire, je pense. J'aimerais beaucoup le faire, donc je le fais pas.
On en reparlera. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Oh, 50 000 fois. Chez Sephora, quand ils m'ont dit tu vas aller ouvrir les Champs-Élysées chez Sephora, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas moi, tiens. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi quand je me suis mariée, quand j'ai rencontré mon amoureux qui est devenu mon mari, je me suis dit ouais, pourquoi pas moi, même si j'arrivais un peu avec un petit fardeau de pas pouvoir d'enfant biologique, pourquoi pas moi quand même. Pourquoi pas moi qui lancerait ce podcast sur l'orientation, enfin sur plein de sujets. Le pourquoi pas moi, il est là. C'est une forme d'audace spontanée. C'est pas pour se me mettre en avant, c'est pas pour prendre de la place. Par exemple, dans l'association que j'ai montée sur les entrepreneuses du 16, là, on a des rencontres et souvent au début des rencontres, il y a des nouvelles, il faut se présenter. Et je vois bien, je laisse volontiers la place aux membres du conseil, du bureau, de l'association pour présenter. Puis elles n'ont pas forcément envie. Bah, pourquoi pas moi? Ça me va bien d'y aller, de me lancer sur des sujets comme ça.
Et là, tu disais que tu savais avant de te marier que tu pourrais pas avoir d'enfant. Tu l'as su à quel âge?
Très jeune, je l'ai su. Ouais, je le savais, ouais, très jeune. Donc je le savais depuis toujours. Je savais en rencontrant mon mari que on allait avoir. De toute façon, cette seule façon d'avoir des enfants, c'était adopter des enfants.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
C'est le bonheur. La réussite, c'est se sentir bien avec ce que tu as dans le moment où tu es. C'est pas waouh la réussite pour moi. C'est des petites réussites, c'est des sommes de petits moments. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, hein, parce que quand on a monté le premier podcast, on s'appelait Réussitologue avec Amélie. Donc la réussite, ça me connaît. Dans la réflexion, et vraiment la réussite, c'est pas une réussite financière, c'est pas la gloire. La réussite, c'est te dire que tu irais par là-bas et t'as réussi à y aller. C'est se connaître aussi et calibrer bien. C'est bien calibrer la réussite pour moi.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Perrine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
On dirait, bah, si j'avais su, je pense qu'elle serait. Elle pourrait pas. Je me souviens pas trop de la Perrine de 6 ans, mais je pense qu'elle se. Ouais, elle serait étonnée. Je pense qu'elle serait surprise. Pensons bien. Je pense que j'ai bien tourné. J'ai quand même des. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été là où je voulais aller. À cette époque-là, j'avais un vélo. On habitait dans une ferme à Dijon, tu vois, vers 6 ans. Et je voulais un vélo rouge, je l'ai repeint en rouge. En fait, j'ai trouvé de la peinture dans la ferme et je l'ai peint en rouge. Et après, je voulais aller sur la route. En fait, j'ai traversé la départementale pour aller avec mon vélo à roulettes sur la départementale. Donc, en fait, j'ai toujours été là où je voulais aller avec la monture que j'avais et que je voulais. Donc, je pense que ouais, la Perrine de 6 ans, elle serait surprise de voir ce que je fais parce que ça n'existait pas et je l'ai fait. Mais voilà, je suis toujours la même Perrine, quoi.
Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements?
J'ai renoncé plein de fois. J'ai renoncé au bling-bling du luxe. J'ai renoncé à l'argent facile. J'ai renoncé à ma liberté en devenant maman, d'un certain côté. J'ai renoncé à plein de choses parce que on est un couple avec mon mari et que ben en fait faut raisonner en couple. Mais j'ai rien renoncé qui m'a coûté trop. Jamais, je pense.
C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Écoute, je serais tentée de dire le fait de devoir adopter. Je pense que c'est ça qui a été le plus dur à envisager pour quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant biologique et pour qui la vie de famille est une perspective heureuse. Il y a un peu une incompatibilité au début, donc ça doit être ça la plus grosse difficulté que j'ai dû traverser.
Comment tu l'as affrontée du coup?
Seule. J'ai trouvé la ressource en moi.
Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi tes peurs?
C'est mes enfants, mes peurs. J'ai plus peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur qu'ils savent pas se débrouiller dans le monde, qu'ils comprennent pas les codes, qu'ils soient malheureux. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. C'est des peurs de irrationnelles. Enfin, les peurs de mes enfants, c'est la trouille viscérale. Enfin, ça me rend folle quand je me rends compte qu'ils sont sur une voie qui n'est pas celle qu'attend la société ou ce qui les rendra, je pense, selon moi, heureux. Ça me rend hystérique.
De quoi t'es la plus fière aujourd'hui?
De ma famille et de ce qu'on est devenus ensemble, tous les quatre.
Si quelqu'un écoute le podcast, se dit bon, elle a super bien réussi, elle en est là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre?
Ouais, j'ai eu de la chance, j'ai eu plein de chance. Mais je l'ai écouté, je l'ai saisi, je l'ai provoqué. C'est pas de la chance toute cuite, quoi. Mais j'ai eu de la chance, ouais. Et je vois trop de personnes qui ont de la chance et qui ne la saisissent pas à côté. Qui l'ignore, qui la piétine, qui la gâche, et c'est trop triste, quoi. J'ai sûrement gâché plein de chances, mais j'ai, je pense que la chance, c'est important de pouvoir vivre en se disant qu'est-ce que j'ai comme chance que je peux exploiter, quoi.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Ouais, je pense qu'il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est quand je pense à l'orientation aux jeunes, c'est tu n'es pas tes notes, tu n'es pas les commentaires de tes profs. Oui, c'est ta note, oui, c'est ton commentaire de ton comportement ou de, du fait que t'as pas assez travaillé, mais tu n'es pas cette note, tu n'es pas un 5 sur 20 et tu n'es pas le trop bavard. Tu es certes peut-être très bavard, mais tu n'es pas la personne, tu ne peux pas te définir comme étant bavard. Tu es plus que ça. Et ça, pour moi, ça, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça.
Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
C'est quelque chose que j'ai des scouts. C'est la devise des scouts, c'est toujours prête. Je suis prête à tout. Donc, sois prête, oui.
Quels sont tes prochains défis?
Je veux vraiment que ce podcast Azimut, il marche. Alors, il marche, c'est-à-dire que plein de gens l'écoutent, parce que c'est très utile. Franchement, c'est de la très bonne qualité, ce qu'on propose, je le sais. Et j'en suis convaincue, et les retours que j'en ai sont ça. Donc, je veux vraiment que ça soit écouté par beaucoup de parents et que ça fasse du bien.
Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous?
J'adorerais, mais je me souviens jamais des titres de livres que je lis. Là, je suis en train de lire une série de livres détente, mais sur l'histoire de sept sœurs dans une famille.
Ah, les sept sœurs de Lucinda Riley.
Voilà.
Donc
c'est très sympa à lire, mais c'est très détente.
Ouais, puis il y a un petit côté culturel avec le fait d'aller voilà, plonger dans l'histoire des pays.
On retourne et tout ça, ouais, c'est ça. Donc ça j'aime bien, voilà. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai? Il y a deux livres que je recommande beaucoup, hein, Le Petit Prince, Au fond du fond du fond, je pense que c'est à tous âges, il faut le relire. C'est un livre que j'adorais offrir quand mes enfants étaient invités à des goûters d'anniversaire. Je trouvais ça génial. Alors, eux détestaient offrir, donc on offrait un truc de Lego et Le Petit Prince. Mais ça, pour moi, c'est important. Et la Bible, qui est un livre que j'aime bien lire, voilà.
Parenthèse sur les sept sœurs, je suis une grande fan de Lucinda Riley. J'ai lu tous ses bouquins, enfin sauf le dernier qui vient de sortir, mais vraiment, ouais, c'est en effet, c'est en mode livre détente, c'est du bonheur. Après, elle est décédée il y a pas très très longtemps, donc on aura pu faut profiter de chaque livre qu'elle a écrit.
Ah bien vu, bah écoute, merci, comme ça je sais. Je vais profiter des. Je crois qu'il m'en reste encore 5. Tu vois,
Ah bah oui, c'est bon. Non, et puis il y a le dernier des derniers qui va sortir là. Je crois que c'est en avril prochain avec toutes mes amies, avec maman, on guette la date. On est au taquet.
Ah bah canon.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Mes parents. Franchement, ils ont fait un bon boulot avec moi.
Merci beaucoup Perrine de nous avoir livré ton histoire comme ça. Et puis bon, je mettrai le lien vers le podcast sur le blog. Est-ce que tu veux nous donner une adresse URL pour ceux qui n'iraient pas sur le blog?
Alors azimut-podcast.com. Et puis sinon sur toutes les plateformes de podcast Azimut. Voilà.
Super. Merci beaucoup beaucoup. Et
merci,
puis je te dis à très vite.
À très vite. Merci.
Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. En attendant, c'est le podcast.